Le grand journal de Canal Plus en direct avec Thomas Legrand, Éric Brunet et Jean-Pierre Mercier. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre Mercier. Donc vous êtes le soutien de
Nathalie Arthaud.
Voilà, donc vous allez parler en son nom. On va voir les temps de parole puisqu'on est, vous savez, assujetti à la loi, donc tout le monde doit avoir le même temps de parole, tous les candidats. Donc effectivement, Nathalie Arthaud est la seule qui n'est pas dans les temps. Et donc ce soir, vous êtes là pour parler en son nom et au nom de Lutte Ouvrière pour être à peu près égalité avec tout le monde. On n'est pas trop mal, quoi. Vous mettez quoi comme note là dans les temps? On est,
je vois
tout
pas
le monde est à peu près 14.
Ah bah, c'est bien. Ah oui, Nathalie Arthaud, il lui manque.
Ah ben là, ça va être comblé ce soir avec avec Jean-Pierre Mercier. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans les meetings, il a énormément de succès. On a vu les images de Toulouse hier. On ne sait pas, bon, on ne va pas faire des querelles de chiffres, mais il y avait
beaucoup de monde.
C'est un tribun. Donc, il est le troisième homme.
Il a l'air, pour l'instant, à moins que ça s'effrite. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de socialistes, même, de gens qui s'apprêtent à voter François Hollande et qui vont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon pour se faire un petit shoot de Louise Michel, de cri du peuple, avant de voter pour la rigueur juste, parce qu'il faut. Mm-hmm. Je pense qu'il y a de ça.
Bernard Lavilliers disait... La chanson de gauche,
ouais. Mais il fait remonter à la surface des choses éblouissantes. Toute la conscience ouvrière engloutie, c'est, sur le plan d'émotion, c'est formidable. Juste un truc. Moi, je me suis amusé quand même à regarder son programme avec beaucoup de précision l'autre jour. Il n'y a rien de compatible avec le Parti Socialiste. Je ne sais pas comment ils vont faire quand ils vont s'installer sur un coin de table pour bosser ensemble, mais ça va être
terrible.
Ils ne
vont pas le faire.
Terrible.
Est-ce qu'il fait de l'ombre à Lutte Ouvrière?
Non, pas du tout. Vous savez, on n'offre pas du tout la même perspective. Et j'en profite pour dire, vous savez, moi, je suis ouvrier dans l'automobile. Je travaille dans une usine PSA Aulnay qui est menacée de fermeture, où la direction de Peugeot va annoncer cette fermeture après les élections présidentielles. C'est le badge que je porte là aujourd'hui, c'est le badge de l'ensemble des salariés qui se mobilisent contre la fermeture de cette usine. Et quand Nathalie Arthaud porte la revendication, la mesure essentielle, incontournable dans cette campagne électorale, de l'interdiction des licenciements, d'interdire aux patrons de fermer des usines, nous, à Aulnay, bah écoutez, c'est comme ArcelorMittal, oui, ça nous concerne vraiment directement, parce qu'aujourd'hui, une entreprise aussi riche que PSA, ils sont riches à milliards, ils n'ont jamais été aussi riches de leur histoire, qu'ils puissent menacer de fermeture une telle usine, c'est un véritable scandale, tout ça pour faire encore plus de profit. Alors oui, la seule chose qui pourra protéger nos emplois, nos salaires, c'est pas ce que dit Mélenchon, le bulletin de vote, changer de gouvernement, avoir un bon gouvernement, non. La seule chose qui peut protéger nos salaires et nos emplois, eh bien, c'est d'imposer l'interdiction des licenciements, d'imposer aux patrons, d'interdire les usines.
C'est par la loi quand même, c'est par les élus. C'est pas...
Mais écoutez, il faudra d'abord une mobilisation puissante, une mobilisation profonde de l'ensemble du monde du travail pour interdire à n'importe quel patron de licencier en temps de crise économique. Aujourd'hui, moi j'apparente ça à des criminels sociaux. Un patron qui licencie, pour moi, c'est un criminel. Voilà, c'est tout simplement.
On a créé un système de solidarité qui s'appelle le chômage, et ceux qui perdent leur travail, hélas, sont dans une forme de souffrance évidente. Mais on a créé un système de solidarité pour permettre au tissu économique de s'adapter aux conjonctures qui parfois sont bonnes et parfois sont moins bonnes. Hélas, interdire les licenciements, ça n'est pas crédible, et vous le savez comme
nous. Pour vous, ce n'est pas crédible. Pour moi, qui suis menacé de licenciement, c'est crédible.
Écoutez,
30 secondes.
Le chômage,
vous dites que le chômage, c'est une bouée de sauvetage. C'est en quelque sorte une bouée de sauvetage. Et après, quand vous n'avez plus le chômage, quand vous n'avez plus les ACDIC, quand vous n'avez plus les allocations, vous faites comment? Vous tombez au RSA, et après le RSA, vous tombez dans la misère. Et après, vous faites quoi?
J'ai dit une souffrance, le chômage.
Oui, mais souffrance, ça ne veut rien dire, souffrance. Bien sûr qu'on souffre. Mais souffrir, il y a plusieurs façons de souffrir. Quand vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus de salaire. Quand vous n'avez plus de salaire, vous ne pouvez plus vivre. Ça veut dire que vous êtes sur le trottoir, vous êtes dehors, vous faites comment avec votre famille? Donc ça, c'est du concret. Ça, c'est pas du rêve, c'est pas de l'illusion comme Mélenchon. Ça, c'est du concret. Donc le chômage, c'est pas une solution pour les travailleurs. La seule solution, c'est de garder...
Non,
je ne veux pas interdire le chômage, je veux interdire aux patrons de licencier. C'est différent. Parce qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a pour maintenir l'ensemble des emplois, pour maintenir les salaires. Il ne faut pas qu'on nous raconte de salade. Les entreprises de CAC 40, c'est plus de 70 milliards de profits qu'ils ont fait en temps de crise économique. Comment vous expliquez ça? C'est sur le dos des travailleurs qu'ils ont fait tous ces profits. Alors il est quand même normal qu'à un moment donné, ces profits, ils servent à maintenir les emplois et à maintenir les salaires.
Parce que nous, on n'a pas envie de crever. Vous ne trouvez pas ça dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, par exemple?
Dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le bulletin de vote qui fait la brèche pour le mur de l'argent. Écoutez, le mur de l'argent...
Ah, il parle de révolution citoyenne.
Dans les urnes. Voilà, ça c'est la référence de Mélenchon. la révolution citoyenne dans les urnes. La référence de Lutte ouvrière et de Nathalie Arthaud, bah, c'est mai 68, c'est juin 36. Vous savez, les congés payés en juin 36, c'était dans aucun programme électoral, même pas celui de Léon Blum. Et c'est la grève de l'ensemble des travailleurs qui a imposé à tous les patrons, même les petits patrons, les congés payés, qui l'ont transformé en une loi. Et donc l'interdiction des licenciements, bah, c'est pareil. Et c'est comme le secret des affaires, excusez-moi d'être un peu long, mais le secret des affaires, là, pour le coup, PSA Aulnay, comment on l'a découvert, cette affaire-là? Ils avaient concocté secrètement dans les grands bureaux de la direction de Peugeot la planification et la fermeture de PSA Aulnay. C'est par hasard qu'on l'a appris. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'on demande, qu'on revendique la levée du secret des affaires, la levée du secret industriel. C'est tout à fait normal que l'ensemble des travailleurs puissent contrôler ce qui se passe dans les bureaux des conseils d'administration pour qu'on puisse se préparer face aux mauvais coups qui nous préparent. Ça, c'est logique et ça, c'est normal.
Alors on va se retrouver avec Jean-Pierre Mercier et tous nos spécialistes dans quelques instants, juste après la petite semaine de Bruno Donnet, comme chaque vendredi. I have a dream.
Madame, monsieur, alors, elle était comment cette semaine, l'actualité?
J'aime mieux pas en parler.
Pourquoi en parler?
J'aime mieux pas en parler, parce que, hein, mon vieux...
Pas facile à résumer, en effet, hein, car entre ces trois Américains qui ont eu samedi un sacré coup de bol...
Le jackpot est de 640 millions de dollars.
Notre classe politique terrorisée par l'éventualité du coup de la panne...
À trois semaines du scrutin, 32% des Français sont tentés par l'abstention.
Et cette très opportune série de coups de filet...
Ce nouveau coup de filet concerne 10 islamistes au total.
L'information, pourtant endeuillée hier par la disparition de celui qui fut un temps l'assistant de François Truffaut, a fait les 400 coups. Coup de filet, donc, dans les milieux islamistes.
Des arrestations dans toute la France et sous l'œil des caméras.
Toute la semaine, les journalistes ont été convoqués pour filmer la pêche miraculeuse des hommes de Claude Guéant.
Les milieux qui sont favorables à l'islamisme radical sont en effervescence.
Car figurez-vous que trois semaines avant le premier tour et deux semaines après l'affaire Mera... La France s'est aperçue qu'elle était envahie de dangereux fondamentalistes.
Certains, eh bien, auraient participé à des entraînements dans des parcs, dans des bois, sur le territoire français.
Toutefois, dormez tranquille, la police les tient désormais par la barbichette. Allah soit loué. À l'étranger, coup d'État au Mali, suite.
Tout va très bien. On vous fera part de ces suite après.
10 jours après avoir destitué le président démocratiquement élu au prétexte qu'il ne luttait pas assez fermement contre la rébellion Touareg au nord du pays, les putschistes sont totalement débordés par ces mêmes Touareg.
Nous allons partir dès que la crise institutionnelle est résolue.
Coup d'éclat en Birmanie après la victoire d'Aung San Suu Kyi aux élections législatives.
Ce sont 50 ans de dictature qu'on balaye aujourd'hui.
Et dire qu'il y a tout juste 18 mois, cette femme vivait en résidence surveillée. On se prendrait presque à espérer un grand souffle démocratique pour la présidentielle qui aura lieu en 2015. Mais pour l'heure, difficile encore de parier sur un coup sûr.
Les militaires ont accepté avec un certain panache le jeu démocratique pour quelques sièges au Parlement. L'accepteront-ils pour le big job, pour le gros poste? C'est une autre paire de manches.
Quant au meilleur coup de gueule cette semaine, on l'a trouvé en Russie, dans la bouche de l'ambassadeur des États-Unis.
Chaque fois que je vais quelque part, vous y êtes. Comme dans un pays sauvage.
Excédé d'être systématiquement précédé par des journalistes qui savent toujours où et quand il se déplace, alors qu'il ne communique pas son agenda.
Ce n'est pas normal. Ça n'existe pas chez nous, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni même en Chine.
Le diplomate convaincu d'être sur écoute a dénoncé des coups tordus.
Officiellement, la guerre froide est terminée depuis une vingtaine d'années, mais les méthodes, elles, sont restées les mêmes.
Allez, devant une telle pluie de coups, on en aurait presque oublié de rappeler ici que les plus vifs ont été échangés en politique cette semaine.
Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?
Victime d'un petit coup de mou et d'une mauvaise chute, Eva Joly aura dû supporter aussi le comeback médiatique d'un Nicolas Hulot décidément bien plus doué qu'elle pour promouvoir la cause écologiste.
Pour dire appeler un chat un chat.
Toutefois, cette semaine encore, c'était pas de la tarte de causer politique dans le poste, car le CSA compte les coups à la seconde près.
Je le regrette profondément.
Voilà, donc là, c'est du temps de parole.
Des observateurs veillent au grain. Il faut donc ici aussi donner du temps à tout le monde.
Ça ne veut rien dire.
Et si ça ne veut rien dire, c'est pas grave, ça compte quand même.
Il faut sortir de cette usine.
Objectif Mars.
Aidez-le!
à partir.
C'est totalement idiot et hautement contre-productif pour le débat démocratique, mais alléluia, à 17 jours du premier tour, le président du CSA vient d'émettre une réserve.
Notre crainte au CSA, c'est que ceci n'appauvrisse le débat politique.
Une preuve, s'il en fallait une, qu'il en va du fameux coup de l'arroseur arrosé dans l'actualité, comme de la semaine, et que le vrai problème, c'est que quand on croit que c'est fini, eh ben ça recommence. Ah pardon, fermez pas, j'ai oublié, il manque 3 secondes de Mélenchon.
À bon entendeur, salut.
Voilà, maintenant c'est bon.
Voilà, merci Bruno Donnet, donc, qui a parlé de l'opération anti-islamiste de cette semaine, donc, qui était un des événements de la semaine et qui s'est achevé, je vous l'ai dit, si vous n'étiez pas avec nous il y a une dizaine de minutes. Donc tout le monde, toutes les gardes à vue ont été levées et les 10 personnes arrêtées ont été remises en liberté, relâchées aujourd'hui.
C'est comme, voilà. C'est comme la grosse surprise qu'on attendait dans le programme de Nicolas Sarkozy.
Oui.
C'est les retraites, finalement, seront payées le premier plutôt que le 8.
Non, mais c'est la preuve que les choses sont faites dans la transparence. Voilà, ils ont été relâchés. Voilà, tout va bien. Ouais,
Jean-Pierre, merci. Vous avez un commentaire là-dessus?
C'est une grosse mascarade électorale. Voilà, c'est encore monté. Hein.
Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, donc, le pays, on a eu une série de crises depuis 5 ans en France, le pays est endetté, il y a beaucoup de chômage, tout ce qui est négatif est en hausse, si j'ose dire, et les scores de lutte ouvrière sont en baisse?
Écoutez, en tout cas, nous, on tient à se présenter dans ces élections. Nathalie, elle se présente comme la seule candidate communiste dans ces élections présidentielles. D'abord, pour dénoncer...
Les communistes qui sont avec Mélenchon, comme Marie-Georges Buffet, ne sont pas communistes?
Ah bah, si, eux, ils sont communistes, mais ils sont derrière Mélenchon. Et Mélenchon, il est tout sauf communiste.
Donc, ils ne sont plus vraiment communistes?
Si, les militants du PC, ils sont toujours communistes. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout des adversaires. Vous savez, dans les mobilisations, dans les grèves, dans les ateliers, dans les usines, on les fréquente, on est avec eux, on est du même côté. Voilà, mais ils ont choisi de se mettre derrière un socialiste.
Comment vous définiriez la différence, par exemple, avec Poutou? Exactement.
Entre Nathalie et Poutou?
Oh, oui.
Bah, écoutez, on est des cousins qui s'éloignent
de plus en plus. Quelle est la raison de ne pas être ensemble?
D'abord parce que Nathalie Arthaud est communiste. Elle le dit fièrement, elle lève le drapeau, elle le tient fièrement, et ça, c'est déjà une grosse différence. Après, vous savez, il y a des... les journalistes voulaient toujours nous mettre dans un seul parti. Nous, à Lutte Ouvrière, on n'est pas pour le parti unique à l'extrême gauche.
Je me mets à la place de l'électeur qui voudrait voter à l'extrême gauche. Il a le choix entre vous et Nathalie Arthaud et Philippe Poutou.
Eh bien, très bien.
Comment il choisit?
Pourquoi Nathalie Arthaud? Il suffit qu'il écoute Nathalie, et il verra que, en tout cas, dans cette élection, dans une période de crise économique, Nathalie propose non pas un programme électoral classique, elle propose un programme de lutte qui répond réellement à la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd'hui le monde du travail, c'est-à-dire le chômage, les salaires bloqués et la misère qui grandit. Voilà.
Pourquoi voter pour vous alors que de l'autre côté vous dites que vous ne croyez pas au résultat des urnes?
Parce qu'on se présente juste parce que d'abord on n'a aucune raison de se taire. Et je peux vous dire, on est le seul parti, Nathalie est la seule, à présenter un programme de lutte, à expliquer que d'abord ce n'est pas les élections qui peuvent changer la vie, contrairement à ce que peut dire Mélenchon, Hollande ou Sarkozy. Non, c'est nos luttes qu'on sera capable de mener dans le futur.
Après les
élections. Et vous savez, l'explosion sociale qu'on appelle de nos voeux, c'est pas nous qui allons la créer. Ça va être la politique du patronat, ça va être la politique du futur gouvernement, quel que soit le futur locataire de l'Élysée. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les patrons qui décident. Et si jamais Hollande devait être élu, ça sera les patrons qui lui demanderont de faire une certaine politique, une politique anti-ouvrière, et qui ne sera pas du tout populaire. Et le problème, c'est que dans cette explosion sociale, il faudra savoir, avoir une conscience claire sur quels objectifs il faudra qu'on se batte.
Alors voilà, il vous reste un peu moins de 2 minutes, 1 minute 55, le chrono est arrêté, donc on va y garder ce temps, il est très précieux. Vous aurez tout à l'heure à répondre au grand oral d'Ariane Massenet. Sur le CSA, donc, on a entendu sur l'histoire des temps de parole, est-ce que c'est qui empêche les débats?
Il n'y a aucun débat au cours du premier tour, jusqu'à maintenant nulle part, il y a de débats, tout le monde essaye et tout, il n'y a aucun débat. Est-ce que cette loi est bonne ou mauvaise?
Non, elle n'est pas bonne, puisqu'il n'y a pas de débat. Et une élection, c'est un débat. Donc, il faut une loi, il faut un cadre pour imposer peut-être une forme d'égalité. Moi, je suis pas contre. Je sais qu'il y en a qui sont contre. Je suis pas contre d'imposer une forme d'égalité. Mais, en tout cas, celle-là, alors peut-être que c'est pas possible. Je dis il faut, mais peut-être que c'est pas possible. En tout cas, celle-là montre, et on est en train de le prouver tous, que ça ne marche pas.
Éric Brunet.
Vous savez, dans le grand triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, il me semble que parfois on est un peu trop taraudé par l'égalité. Moi j'aime la liberté. J'aurais adoré que nous soyons tous libres d'interviewer qui on voulait, quand on voulait, dans les conditions qu'on souhaitait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit dans les rédactions de France et de Navarre un degré de sophistication pour essayer de contourner la loi, etc. Il y a des rediffusions la nuit pour arriver juste au temps. C'est absurde. C'est totalement absurde. Mais le CSA n'y est pour rien.
Non,
c'est
la loi. C'est
la loi, les pauvres.
Vous faites même des... Vous êtes tordu à France Inter. Vous passez des sons à l'envers en disant...
Non, ce matin, dans l'émission de Pascal Clark, on avait quelques petits retards à rattraper. Donc, on a passé des sons un petit peu en rigolant, comme ça. Le conseil...
Si vous passez un candidat à l'envers, ça lui rajoute du temps de parole, ça?
Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans cette précision. Donc, on les passe avec de la musique, on les passe en saccadé, pour rattraper les temps. Quand il nous reste 12 secondes de Bayrou, on passe 12 secondes et puis on arrête à 12 secondes.
Avec du rap,
Si c'est au milieu d'un mot, on arrête. Voilà
merci beaucoup.
C'était un clin d'œil.
Voilà, tout à fait. Le grand oral avec Ariane, il vous reste 1 minute 55.
Oui. Et c'est désormais tradition avec les soutiens des candidats dans le grand oral, on essaye de savoir s'ils sont compatibles avec la personne qu'ils soutiennent. Donc sur un degré entre 0 et 10, où est-ce que vous situez votre arto-compatibilité?
À 10.
À 10, très bien, on va vérifier ça tout de suite. 10 questions, 10% à chaque fois de compatibilité si vous donnez la bonne réponse. La matière qu'elle enseigne, Nathalie Arthaud?
L'économie et la gestion.
Bravo. Le métier qu'elle rêvait de faire enfant?
La colle. Je cale.
Coiffeuse.
Coiffeuse.
Son parcours d'étudiante après le bac?
Elle a agrégé d'économie.
Aucun puis scientifique. Mais on vous l'a
dit. J'étais pas loin.
Date de naissance.
70.
Bravo. La date à laquelle elle a rejoint Lutte ouvrière?
Il y a 20 ans.
Oui, on l'accorde, 1990. Le score de Lutte ouvrière lors de la dernière élection présidentielle?
1,3.
Pardon?
1,3.
Oui. C'est bon. Le prix d'adhésion à Lutte ouvrière?
Alors là, c'est selon ses besoins.
Il y a un minimum?
Non.
Si.
Bon, c'est moyen.
Plus,
c'est
5 euros.
Pardon?
5 euros.
10. Mais arrêtez de toucher, j'en ai pas. Un de ses sports préférés?
Le volleyball, peut-être.
Bravo. Ouais. Bravo. Une de ses chanteuses favorites?
Zaz?
Non.
Elle a changé.
Amy Winehouse ou Ayo? Non, mais Jean-Michel, ça va pas bien.
C'est vidé comme ça.
Et pour terminer, le degré de sex-appeal qu'elle accorde à Claude Guéant?
0.
On va vérifier tout de suite avec la boîte à questions.
Moi, sans doute, c'est 0, ou alors moins je ne sais trop quoi, parce que je ne peux pas m'empêcher de voir quand même qu'il fouille tous les jours dans les poubelles du Front National, et voilà.
80%
c'est très bien.
De compatibilité.
Je confirme.
Vous confirmez?
Le notaire confirme.
Oui, la coiffeuse, vous ne savez pas qu'elle vient de coiffer, vous ne pas
de... Merci, Ariane. Le zapping. Jean-Pierre Mercier. Si je vous dis qu'il vous reste 17 secondes de temps de parole, que faites-vous?
Écoutez, je dis simplement que le message que je voudrais faire passer, c'est que quel que soit le futur locataire de l'Élysée, il faudra que les travailleurs comptent sur leur propre force pour se protéger des attaques des patrons qui vont vraiment être extrêmement durs. Ils vont y aller à la hache. Et pour défendre notre peau, eh bien, il va falloir qu'on se batte.
Merci, merci beaucoup d'être venu ce soir. Dans un instant, le petit journal de Yann Barthès. Merci Eric Brunet, Thomas Legrand, toute l'équipe, faites de joyeuses Pâques. Mais c'est pas fini, on se retrouve à 20h35.